Moins il y a de personnes sachant la vérité, mieux ça vaudra. Avec la Stasi, on ne plaisante pas.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Le cas de la RDA, comment vivre dans un état totalitaire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Emmanuel Droit. Aujourd'hui, deuxième épisode, 1953, la RDA à l'épreuve de la contestation.
Dans la zone soviétique de Berlin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers exaspérés par les décisions du gouvernement communiste d'augmenter sans contrepartie les normes de travail se sont soudain soulevés. La police populaire a dû protéger les meneurs communistes que malmenait la foule. Des immeubles de l'administration soviétique ont été incendiés.
Au début des années 1950, l'enthousiasme des débuts de la RDA laisse place au mécontentement populaire. Pour répondre aux exigences du parti et de l'Union soviétique, les ouvriers est-allemands sont soumis à des cadences de plus en plus lourdes avec des salaires qui n'augmentent pas. À cela s'ajoute une augmentation des prix et une pénurie d'alimentation. En mai 1953, la coupe est pleine lorsque le premier secrétaire du SED, Walter Ulbricht, qui dans les faits dirige le pays, ordonne une nouvelle augmentation de la cadence de travail et, alors que les magasins sont déjà vides, appelle le peuple à se nourrir frugalement. C'est dans ce contexte que le 16 juin 1953 éclate la première grande insurrection populaire de la RDA, qui est aussi la première du bloc socialiste. Ce jour-là, sur la Staline Allée, l'immense avenue de style soviétique qui traverse Berlin-Est, des centaines d'ouvriers débrayent et manifestent dans leur tenue de travail en criant leur colère contre Ulbricht. Der Spitzbart muss weg, le barbu doit s'en aller.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Le drapeau rouge qui flottait sur la porte de Brandebourg était arraché et remplacé par les couleurs allemandes. Ce geste déclenchait alors l'intervention des forces russes et les chars à la suite des voitures de police ouvraient le feu. Les informations soviétiques parlent de 18 morts et de 200 blessés. Ces manifestations de Berlin-Est ont eu des échos dans toute la zone soviétique où d'autres manifestations du même genre se sont déroulées.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 1953, comme une traînée de poudre, la colère gagne le reste du pays. Toute la RDA est en grève. Le matin, dans toutes les villes, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Des manifestants s'en prennent aux postes de police, aux sièges des journaux, aux bâtiments du Parti communiste, le SED, aux cris de « à bas les normes de production », mais aussi, plus politique, « nous voulons des élections libres ». Des policiers sont violemment pris à partie et priés d'enlever et de jeter leurs uniformes, qualifiés de « russes », une manière de contester la présence de l'armée soviétique. On estime qu'environ 1 million de personnes ont pris part au soulèvement. Le gouvernement et les forces de l'ordre semblent totalement dépassés par la situation. Walter Ulbricht, le barbichu, lui-même a disparu. Mais ce 17 juin 1953, il est 13h lorsque les soviétiques prennent les choses en main en décrétant l'état de siège en RDA. À Moscou, Vassili Sokolovski, le chef de l'état-major des armées soviétiques, qui s'était illustré pendant la Seconde Guerre mondiale, est envoyé en personne à Berlin pour mater l'insurrection. La répression sera sans pitié. Malgré une forte résistance, les manifestants est-allemands ne peuvent rien face aux chars soviétiques qui s'élancent contre eux. On comptera près de 300 morts, environ 15 000 interpellations, 2 500 condamnations à de la prison et au moins une vingtaine de condamnations à mort. L'ordre soviétique est totalement rétabli à partir du 23 juin. Pour échapper à la répression et aussi espérant de meilleures conditions de vie, en 1953, près de 300 000 personnes quittent la RDA pour l'Ouest. Entre 1949 et 1961, sur 19 millions d'habitants, c'est un total de 3 millions qui ont fui la RDA. Emmanuel Droit, donc le 17 juin 1953 est une date très importante dans la mémoire allemande, mais qu'est-ce que cette insurrection, donc menée par des ouvriers quand même, et qu'est-ce que cette répression aussi nous disent de ce qu'était la réalité de la RDA en 1953, ce pays qui prétendait construire le socialisme au nom du prolétariat?
Le 17 juin 1953 apparaît comme un événement fondateur de l'histoire de la RDA. Il cimente le divorce entre l'État SED, au pouvoir depuis 1949 et sous le contrôle soviétique, et puis une société éreintée par les premières années de soviétisation de l'économie, de la culture, de la société. Et cette révolte, qui est d'abord une insurrection ouvrière, mais qui est en fait une insurrection de l'ensemble de la société, elle marque le divorce définitif entre le régime et sa société. En gros, c'est un régime illégitime qui ne doit sa survie qu'aux chars et aux baïonnettes soviétiques et qui va vivre entre 1953 et 1989 dans la peur et la méfiance, avec toujours cette idée qu'un nouveau 17 juin 1953 pourrait revenir.
Est-ce que ça nous révèle aussi, c'est la réalité de la vie quotidienne dans ce régime totalitaire, une vie quotidienne difficile, un rationnement qui durera jusqu'en 1958 et aussi la question de l'information qui est importante. Les nouvelles sont propagées en Allemagne de l'Est grâce à la radio ouest-allemande.
Oui, alors on a un bel exemple à la fois de circulation de l'information et de désinformation. Circulation de l'information parce que la radio au secteur américain, donc RIAS, relaie en fait les revendications des manifestants et contribue à diffuser l'information dans l'ensemble de la RDA, puisqu'on pouvait capter dans à peu près tout le territoire est-allemand les ondes américaines. Et en retour, le régime a essayé de présenter cette insurrection comme une tentative de coup d'État fasciste. Ils ont appelé ça le jour X. Et donc, ils ont essayé de montrer à la population que, en fait, c'était une sorte de manipulation voulue par les nazis qui seraient restés en Allemagne de l'Ouest. Donc, on a une guerre de l'information entre l'Ouest et l'Est.
En URSS, jusqu'à la mort de Staline en 1953, il y a un véritable culte de la personnalité, donc typique d'un État totalitaire. Est-ce qu'il y a la même chose en RDA? Par exemple, Walter Ulbricht, je crois qu'il a essayé. Hein. Il y a eu film qui a été réalisé.
Oui, il y a eu des tentatives de culte de la personnalité. Alors tout d'abord, il y a le culte de la personnalité de Staline, avec ce pic du 70e anniversaire du dictateur en 1949. Et puis, ce culte de la personnalité, c'est incarné aussi dans notamment le visage est un peu plus doux de Wilhelm Pieck, qui apparaissait comme le grand-père de ce nouveau régime. Et donc, par exemple, dans chaque école, chaque collège, chaque lycée, vous aviez une sorte de petit hôtel avec la photo du président de la RDA. Et on pouvait organiser, on devait même organiser, des manifestations en hommage de la RDA devant cet hôtel. Donc, il y avait un caractère un peu religieux, mais qui n'a pas pris avec Walter Ulbricht, qui était très impopulaire, en fait.
En URSS, il y avait le goulag, il y avait les camps de concentration. Donc, est-ce que dans la RDA, il y avait ça aussi, des camps ou des prisons?
Alors, il y avait des camps spéciaux qui, à partir de 1945, dans la zone d'occupation soviétique, ce qu'on appelle les Speziallager, ont accueilli les nazis, les criminels de guerre. Puis très rapidement, le spectre a été élargi à toute forme d'opposition politique. Et ces camps ont fonctionné à peu près jusqu'au début des années 50 et ont parfois repris les structures des camps de concentration de Buchenwald, notamment.
Les camps nazis.
Les camps nazis. Et à côté de cela, la Stasi, qui est créée en 1950, va mettre en place un système de prison. Mais on peut aussi déporter des Allemands de l'Est et plusieurs milliers vont être déportés au goulag en Union soviétique lorsqu'on considérera qu'ils ont commis des actes déviants et ils seront donc envoyés au goulag en Union soviétique jusqu'à la mort de Staline en 1953.
Dans les années qui suivent les insurrections, donc de 1953, le gouvernement de la RDA va-t-il changer de politique?
Il y a une sorte de lent aggiornamento, puisque si les conditions économiques se dégradent, c'est parce que la RDA fait le choix de mettre tous ses investissements sur l'industrie lourde et pas sur l'économie et l'industrie de légère ou de consommation. Ouais. Et donc Walter Ulbricht va comprendre en fait qu'il va falloir améliorer la vie quotidienne des Allemands de l'Est, notamment leur donner des logements plus salubres et plus modernes. Et donc, il y a une partie des investissements, mais très lentement, qui vont être réorientés vers l'industrie légère. Mais vous l'avez rappelé, le rationnement, et c'est une différence fondamentale avec le décollage économique et le miracle économique en Allemagne de l'Ouest, la RDA vit sous un régime de rationnement jusqu'à la fin des années 50. Et souvent, les familles est-allemandes profitent des paquets envoyés par leurs familles de l'Ouest pour avoir des produits alimentaires. Mais la situation économique est vraiment très compliquée au quotidien pour les Allemands de l'Est jusqu'à la fin des années 50, début des années 60.
À ce moment-là, les Allemands de l'Est comprennent qu'il ne leur reste qu'à fuir ou à obéir, c'est ça ?
C'est ça, il y avait deux possibilités. Soit vous courbez les chines et vous essayez de trouver une place en misant sur le conformisme et en essayant de trouver votre place dans ce régime. Et puis, vous l'avez rappelé, jusqu'à 3 millions d'Allemands de l'Est vont fuir, notamment les jeunes qui ont été bien formés par le régime, pour le coup parce que les structures scolaires qui ont été réformées produisent des générations bien formées, notamment en mathématiques, dans les sciences dures, et ces générations-là vont aller renforcer en fait l'économie ouest allemande jusqu'en 1961, puisqu'on pouvait passer par Berlin-Ouest pour fuir cette ERDA.
À partir de 1953, donc, le gouvernement est-allemand serre la vis davantage pour empêcher toute forme d'opposition en renforçant la police, l'armée et la fameuse Stasi qui va réprimer, mais aussi plus insidieusement, exercer un contrôle permanent sur la population. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Merci Emmanuel Droit